Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala hila yawmiddin, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi shahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous permet de vivre, mashallah, ce mois béni de Ramadan et principalement cette dernière décade. Nous nous rappelons tous des vertus de ce mois béni qu'on avait donc cité juste avant le mois de Ramadan. Et parmi les points que notre prophète alayhi salat wa salam avait cité concernant le Sayyid al-Shuhur, concernant ce mois béni, An-Nabi alayhi salat wa salam avait rappelé wa fihi laylatun khayrun min alf shahr man qamaha imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et ça correspondait à la fin des hadiths en général qui rappellent les vertus du mois béni. C'est-à-dire que dans ce mois on a mashallah mois de bénédiction, mois de pardon, mois d'acceptation des du'as, mois de délivrance du feu de l'enfer pour les gens qui ont la ilaha illallah mais qui ont commis des péchés, mois du Coran par excellence, mois du qiyamul layl, du tahajjud, des efforts à faire, mois de sadaqa, de l'aumône. L'aumône du Ramadan est mieux que l'aumône qu'on donne en dehors du mois béni. C'est-à-dire toutes ces vertus, toutes ces actions bi'idhnillah, on les a tous déjà vécues et on les a déjà mises en application, chacun bien sûr selon son niveau. Il restait une dernière chose dans les vertus du mois béni qu'on peut résumer à peu près à 11 fada'il, 11 vertus. C'est justement dans cette nuit, le hadith qu'on a cité, wa fihi laylatun khayrun min alf shahr, et dans ce mois il y a une nuit qui a plus de valeur que 1000 mois. Celui qui répond présent par sa salat, ses prières, c'est-à-dire les actes d'adoration avec iman, wahtisaba, ihtisaban, c'est avec espoir de rétribution, c'est-à-dire que le fait d'être présent avec la présence physique, mais également la présence de cœur, avec la connaissance des vertus de cette nuit, et avec cette conviction qu'Allah va m'accorder telle et telle récompense pour les efforts passés cette nuit. Donc cette personne-là, rufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Rabbul Izza lui accorde le pardon des péchés de toute sa vie. Qu'Allah Azza wa Jalla lui donne la possibilité d'obtenir cette récompense. C'est la dernière chose qui nous manquait durant ce mois béni. Et ces vertus commencent spécifiquement dans la dernière décade. Normalement, ce soir, aujourd'hui c'est mardi, on devait continuer le tafsir d'Al-Fatiha qu'on avait commencé. Et puis, subhanallah, on s'est dit que c'est la nuit du 21e à La Réunion et c'est la nuit du 23e en métropole et on a presque envie de dire dans le reste du monde, parce qu'on est un peu isolé cette année dans la façon de compter les ayam Ramadan, mais khair. Mais ce qui est quand même bien, c'est que le fait qu'on ait deux jours de décalage, les nuits paires et les nuits impaires correspondent cette fois-ci. C'est-à-dire que quand nous, on passe la nuit du 21e en ibada, on sait que à Mecca et dans les autres endroits, c'est le 23e et ainsi de suite. Donc, sachant que les nuits impaires correspondent, on s'est dit que on doit peut-être faire un rappel et se sensibiliser de l'importance de passer, j'allais dire, de passer ces nuits en ibada, ou alors de passer le maximum de temps en ibada durant les nuits de la dernière décade. Et remarquez, à chaque fois qu'on va parler de ces nuits, on ne dira jamais les nuits impaires, mais l'ensemble des nuits. Alors, premièrement, la première thématique de cette intervention, c'est de comprendre comment le prophète alayhi salat wa salam vivait la dernière décade. Nous savons tous qu'un nabi alayhi salat wa salam accomplissait beaucoup de bonnes actions déjà depuis le mois de Rajab et Sha'ban. Et le mois de Sha'ban se distinguait par une augmentation du nombre de saum, de jeûnes. Et arrivé le mois de Ramadan, c'était tout ce qu'on a cité en introduction. Le prophète alayhi salat wa salam devenait l'homme le plus généreux lorsque l'ange Jibril venait le voir. Le prophète alayhi salam récitait le Coran avec l'ange Jibril alayhi salam et il faisait nombre de bonnes actions. Mais lorsque c'était la dernière décade, il faut bien qu'on comprenne que le prophète, quand il vit la dernière décade, c'est la même dernière décade que nous vivons. Et ce qu'Allah fait descendre, ce qu'Allah faisait descendre durant la dernière décade à Al-Madina, Al-Munawwara, pour Al-Habib, alayhi salat wa salam, c'est la même chose qu'Allah fait descendre en 2021 pour cette Ummah, que nous soyons l'île de la Réunion, en métropole, en Angleterre, ou peu importe l'endroit. Nous faisons partie de la Ummah de Muhammad, alayhi salat wa salam, et donc nous bénéficions des wa'adullah, de la promesse d'Allah concernant sa Ummah et concernant les bénédictions qu'il fait descendre Azza wa Jal sur nous durant la dernière décade. Ainsi donc, le prophète alayhi salat wa salam avait une attitude particulière durant les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Première chose, on va être le plus concis possible et on va expliquer de façon, inshallah, synthétique, mais que ce soit clair et que l'enseignement soit le plus sincère. Nous sommes tous là par ikhlas, par sincérité. On a envie de connaître, on a envie de comprendre. Et je suis très content de voir certains de mes élèves, de très jeunes qui sont en ligne avec nous et qui sont en vacances. Pour la Réunion, c'est les vacances. Vacances d'école et vacances de madrasa. Vous n'avez pas cours demain après Fajr et pas cours le lendemain non plus. Donc, c'est peut-être les premières fois de votre vie, je parle pour les plus jeunes, où vous allez peut-être essayer de passer un peu plus de temps en ibadah. Et c'est vraiment forosa, c'est vraiment l'occasion. Donc, l'objectif, c'est de comprendre, que ce soit un rappel pour nous tous, et de transformer ces paroles en amal, avec espoir qu'Allah nous donne la guider, la hidayah, de les mettre en application. La première action, la première distinction de ces nuits de la dernière décade, le prophète alayhi salat wa salam, ihya al-layl bil ibada. Il passait les nuits en ibada. On a le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Et Aïcha radhiyallahu anha, vous savez que c'était l'épouse la plus aimée du prophète alayhi salat wa salam à Médina. Et allez, on a dit pas de parenthèse, mais celle que le prophète alayhi salat wa salam aimait le plus à Mecca, c'était Khadija radiyallahu anha. Et du vivant de Khadija radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wasalam ne s'était jamais remarié. Aïcha radiyallahu anha, étant jeune, elle avait cette faculté, cette capacité à observer et à rapporter. Et donc, c'était celle qui a rapporté le plus de témoignages du vécu et des habitudes du prophète alayhi salatu wasalam. Taqulu alayhi radiyallahu anha, kana alayhi salatu wasalam idha dakhala al-ash ahya al-layl. Hadith de Muslim. Mon prophète alayhi salatu wasalam, voilà comment il vivait lors de la dernière décade du mois béni. Et elle dit, ahya al-layl, il passait l'intégralité de la nuit en ibada. On a un hadith également de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu qui stipule qu'an alayhi salatu wassalam yajtahidu fil ashri al-awakhiri ma la yajtahidu fi ghayri. Hadith de Muslim également. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait des efforts durant cette dernière décade. Il précise effort qu'il ne faisait pas durant les autres périodes. Comprenez, les autres périodes, c'est les autres mois de l'année, mais également les autres nuits du Ramadan. C'est-à-dire les efforts du prophète alayhi salat wa salam durant la dernière décade étaient supérieurs aux efforts qu'il faisait durant les 20 premières nuits du mois de Ramadan. Et on a un autre hadith qui précise qu'an alayhi salat wa salam dans les 20 premières nuits, il partageait son temps bi salatin wa naumin, entre les prières et le sommeil. Fa idha kana al-ashr, et lorsque c'était la dernière décade, il passait l'exclusivité de la nuit en prière. Et puis on a d'autres hadiths qui sont connus avec des phrases très précises où il est stipulé que le prophète pliait donc sa natte pour ne pas dormir la nuit. Ce dernier hadith est rapporté par Imam Ahmad. Donc déjà on a une première indication, le prophète passait ses nuits en ibada. Nous, en tant que membres de sa umma et héritiers des anbiya alayhimus salatu wassalam, nous devons essayer au mieux de suivre notre prophète alayhi salat wa salam et faire l'intention de passer la nuit en ibad. Après, maintenant, je tiens à préciser, pour pas que d'emblée le discours semble inaccessible, parce que si dès le départ on vous parle de notions qui nous paraît inaccessible, je donne un exemple, imaginez que je sois un dentiste ou alors professeur d'école ou quelle que soit ma profession, et que demain j'ai des responsabilités, je dois être présent, je soigne des patients, je sais pas, je fais des piqûres, voilà, j'ai besoin de toutes mes facultés. Alors bien sûr, si je passe la nuit en ibada, ça risque d'être très compliqué. Donc d'emblée, si je vous dis qu'il faut absolument passer la nuit en ibada, vous allez tout de suite décrocher. Il dit que oui, mais ça c'est pour une certaine catégorie de personnes. Voilà encore un discours qui va passer largement au-dessus de nos têtes et qui concerne les pieux, les gens qui sont investis dans la religion et qui vivent pour la religion d'Allah. Non, ce discours s'adresse à tout le monde et chacun fera des efforts en fonction de ses capacités. capacité. Et il y a quelque chose qui est très beau. J'ai expliqué ça cet après-midi. J'allais l'écrire sur les réseaux sociaux, mais après, vous savez, le temps d'écrire sur Facebook, ça prend tellement de temps et il est mieux parfois de faire istighfar et des doigts et des adhkars plutôt que d'écrire. Et on peut le dire. Et puis, on le retient. Vous savez, il y a des personnes qui disent que voilà, j'essaie de passer la nuit en ibadah. Là, on est en train d'expliquer le premier point. Le prophète passait l'intégralité de la nuit en prière, en adoration. On verra dans un instant quels sont les différents actes d'adoration. Maintenant, une personne se dit que j'ai déjà essayé. Et ça commence bien. Je finis ma salat al-tarawih à 21h30. Je me restaure, je prends un café, quelque chose qui me permettra de tenir. Et je commence les lectures de Coran, les prières. Mais à 00h30, ce qui se passe, c'est qu'entre deux prosternations, dans ma prosternation, je m'endors. Et je me réveille tout affolé 40 minutes plus tard. J'ai dormi 40 minutes en sujoud. Et je me rends compte que je n'en peux plus. J'ai la tête qui tourne, je suis fatigué, je fais mes ablutions, mais je ne tiens pas. Je tente une deuxième fois de reprendre la salat, sachant que celle-ci elle a été annulée parce que j'ai dormi et voilà. Pas forcément annulée, hein. Pas forcément, je reprends ce que j'ai dit. On peut compléter. Et donc, je reprends, j'essaie, mais de nouveau, je m'endors. Mais, ikhwan et khawati fillah, imaginez ce qu'Allah Rabbul Izzah voit. Et Allah voit tout. Allah Azza wa Jal voit un de ses serviteurs qui a fait l'intention de passer la nuit en ibadah. Et vous savez que innama al-a'malu binniyat, les actions ne valent que par leur intention. Et vous savez également que le Prophète nous a rappelé que lorsqu'une personne a l'intention d'accomplir une bonne action, Allah demande aux anges d'inscrire la bonne action immédiatement dans son livret de compte. Dès que le niya est formulé. Et si ce serviteur l'accomplit, Allah Rabbul Izzah demande aux anges d'écrire au minimum 10 fois la récompense de l'action initiale. Car dans le Prophète dit qu'al-hasanatu bi'ashri amthaliha, chaque bonne action est multipliée par 10. Donc, ikhwan et khawati fillah, vous avez fait le niya. La bonne action est déjà inscrite, subhanallah, dans votre mizan, dans votre livret de compte. Maintenant, vous vous réveillez, vous êtes ce croyant qui fait l'effort. Donc déjà, vous avez x10 de la récompense. Et quand vous faites l'effort, ce frère ou cette sœur qui commence, qui prie, qui s'endort, qui lutte, qui refait ses ablutions, qui s'asperge d'eau et qui reprend et qui refait 2 unités de prière et qui somnole et qui n'en peut plus, il fait partie de ceux qui ont fait un pas vers Allah. Et le Prophète dit que celui qui fait Hadith Qudsi, Allah Azza wa Jalla le rappelle, celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait 2 pas vers lui. J'ai fait un effort. Et Allah va m'accepter. Et donc, je reprends ce que j'ai dit. Imaginez cette scène où notre Rabb Azza wa Jal, notre Seigneur, nous voit en train de lutter contre le sommeil, lutter contre notre nafs, lutter contre notre condition humaine qui fait que j'ai eu une dure journée de travail, j'étais au travail, quelle que soit ma profession, je suis commerçant, j'ai tenu mes responsabilités du matin jusqu'à fermeture à 18h, j'ai servi le repas à ma famille et je suis fatigué, et je suis en train de lutter contre ma condition humaine et ma faiblesse humaine pour rechercher l'agrément d'Allah, pour obtenir quelque chose que mon Seigneur m'accorde durant cette nuit et pour imiter notre prophète alayhi salatu wa salam, pour faire vivre sa sunna qui lui priait toute la nuit. Et Allah Azza wa Jal voit mes efforts. Ne doutez pas une seconde que vous êtes déjà agréé et accepté par Allah. Et ne le vivez pas comme un échec. Si au bout d'une heure de salat, vous n'en pouvez plus et vous vous décidez de faire une petite pause et, mashallah, comme la belle au bois dormant ou le beau au bois dormant cette fois-ci, si c'est un frère, on vient vous réveiller pour le suhur. Et je me rends compte que j'ai fait que 4 rakat et j'ai dormi assis sur mon tapis de prière. Mais Allah a vu vos efforts. Allah a vu vos sacrifices et Allah connaît la bonne intention. Donc, quel que soit mon niveau spirituel, quelle que soit ma capacité à tenir longtemps ou pas longtemps, du moment que j'ai al-azm, l'intention ferme et l'envie de plaire à Allah, c'est déjà une une réussite. Donc, premier enseignement, la nuit passée en ibada et chacun fait ce qu'il peut. Deuxième enseignement, kana yuqidhu ahlahu. On a le hadith de Ali radiyallahu anhu, kana Ali sallallahu alayhi wa sallam yuqidhu ahlahu fi al-ashr al-awakhir min Ramadan wa kullu saghirin wa kabirin yutiqu as-salah. Hadith at-Tabarani. Le prophète alayhi sallatu wa sallam réveillait les membres de sa famille durant la dernière décade et même les enfants qui pouvaient prier. On a également le hadith de Zainab radiyallahu anha qui va de le même. On ne va pas lire tous les hadiths, mais ça va dans le même sens. Chaque personne qui pouvait prier, le prophète sallam réveillait ces personnes afin qu'ils puissent participer et prendre part et bénéficier des vertus de cette nuit. Et les ulama rahimahoullah nous expliquent également dans la hikma, la sagesse pour laquelle le prophète sallam réveillait ces personnes, c'est pour que l'enfant prenne considération de cette période et que l'enfant s'imprègne de l'importance de la dernière décade pour que lorsqu'il grandit, il va intégrer l'importance de la dernière décade et durant toute sa vie, il donnera de l'importance même si un jour il est en métropole ou ailleurs en train de faire des études, ça fait partie de sa tarbiya, de son éducation et c'est quelque chose, c'est un marqueur dans, on va dire, dans son histoire, il sait que c'est un événement important. Hada. Non. Et la question a été posée concernant une femme qui ne peut pas prier durant cette nuit. Elle est en état d'impureté, donc elle ne peut pas prier. Les savants disent que si c'est une personne qui, mashallah, durant chaque nuit du Ramadan, elle priait déjà, elle faisait un nombre de prières, il lui suffit de répondre présent, parce que la dernière décade, ce n'est pas uniquement la salah, et ce n'est pas uniquement la lecture du Coran. On va voir, il y a d'autres actions qu'on peut faire. Les doigts ne nécessitent pas la tahara kamila, de même que les invocations, de même que la istighfar. Il suffit de répondre présent, d'être réveillé, et inshallah elle aura les récompenses parce que son niya aurait été d'être présente parmi ceux qui sont en qiyam, mais suivant les règles de jurisprudence, elle ne le fait pas, donc ce n'est pas non plus un échec. Le prophète alayhi salat wa salam avait l'habitude de prendre un peu de distance avec ses épouses durant la nuit de la dernière décade. Et les savants disent, certains disent que c'est spécifique, bien sûr, à celui qui fait un tikaf, ça c'est très clair. Mais ce n'est pas quelque chose de haram, hein, on a compris de quoi on parle. Mais ce serait juste karahiyya, déconseillé pour que, voilà, on puisse vraiment rester concentré. Ce qui a été rapporté également, le hadith de Aisha radiallahu anha, c'est que notre prophète alayhi salat wa salam waghtasala bayna al-adhanayn, il avait l'habitude de prendre un bain entre les deux adhan, et c'est expliqué par entre le maghrib et le isha. Donc le fait de prendre un bain avant de commencer nos ibadah, c'est quelque chose qui peut aider, on va dire, d'une certaine façon ça rafraîchit un petit peu, et on fait revivre une sunna de prendre un bain le soir avant la nuit avant notre nuit d'adoration. Ce que le prophète alayhi salat wa salam faisait également, c'est se parer, mettre des beaux habits, se parfumer pour le qiyam al-layl, et c'était l'habitude des pieux prédécesseurs. On a hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. C'était de ses habitudes, irtasala wa tatayyaba, il prenait un bain, il se parfumait et il portait ses plus beaux habits. Pourquoi il portait ses plus beaux habits? C'est parce qu'il savait, il avait la conviction qu'il se présentait devant Allah Azza wa Jal et il voulait que son Seigneur le voie avec ses plus beaux habits, qu'il a fait des efforts pour qu'il puisse plaire à Allah déjà dans son apparence et ensuite par les ibadah. On rapporte cela également de Imam al-Nakhai, de Imam al-Tabari et de Tamim al-Dari et d'autres pieux prédécesseurs qui prenaient donc cette habitude. Voilà donc les actions de cette nuit, passer la nuit ibadah, faire en sorte que chaque membre de la famille puisse répondre présent, et bien sûr s'il s'agit d'enfants, mais pas toute la nuit, 10 minutes ou 15 minutes, le temps qu'ils peuvent, et également prendre un bain si possible pour être plus en forme, et mettre de beaux habits, se parfumer, c'est-à-dire se mettre dans les meilleures conditions pour passer cette nuit en ibadah, ou une partie de cette nuit en ibadah. Hada. Maintenant, notre objectif, bien bien sûr, c'est de rechercher Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et cette nuit du destin se trouve, bien sûr, ça c'est très clair, dans la dernière décade. Si on doit passer en revue les différents hadiths, ce qui serait beaucoup trop long, on veut se limiter à 30 ou 40 minutes au maximum ce soir. Si on fait une synthèse des hadiths, on retrouve que la nuit du destin se trouve dans les nuits impaires de la dernière décade. Donc on est à la 21e, 23, 25, 27e ou 29e nuit du Ramadan. Et certains savants sont d'avis que d'une année à l'autre, ça peut changer. Et puis, il y a également les récits concernant les différents signes qu'on peut voir et qui nous permettent de déterminer que c'est une nuit du destin ou non. Mais on ne va pas s'attarder sur tout ça parce que nous, on n'est pas là pour chercher des signes. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment passer l'intégralité ou une partie des 10 nuits, des 9 ou 10 nuits en adoration. C'est la dernière décade qui nous intéresse et pas uniquement la nuit du destin. Alors justement, quand on parle de Laylatul Qadr, il est nécessaire de comprendre. On ne va pas faire une analyse de l'étymologie de chaque mot, mais quand on dit Laylatul Qadr, comprendre, ça veut dire quoi le mot Qadr? Parce que la compréhension du terme, c'est un terme qui vient d'Allah. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr, c'est la révélation. Le fait de comprendre le terme nous permettra d'avoir la connaissance et de prendre considération de ce qui se passe durant cette nuit. Il y a deux ma'na, il y a deux sens. Le mot Qadr, c'est déjà on a le mot Qadr qui veut dire l'importance, une valeur. Et c'est une expression, parfois, on a chez nous à La Réunion, des anciens disent « Maman, il prend Qadar, fais Qadar, les autres parents, encore vivants, un jour, elle va mort et tout. » Fais Qadar, ça veut dire donner de l'importance, prendre considération d'un bienfait. Et pourquoi cette nuit a été nommée Laylatul Qadr, une nuit de grande valeur, de grande importance? Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, cite plusieurs avis. Il rapporte ce que Imam al-Zuhri, Rahimahullah avait cité, dit que parce que en cette nuit, Allah Azza wa Jal a fait descendre le livre le plus important, c'est le Coran. Également, en cette nuit, Allah Rabbul Izza fait descendre Malaika, des anges d'une grande importance, des anges spécifiques qui descendent sur terre durant la nuit du destin. Donc, toutes ces choses qui se produisent, ce sont des choses exceptionnelles qui ont de la valeur, d'où le surnom Laylatul Qadr, nuit d'une grande valeur. Également, il y a en cette nuit des bénédictions, des rahmas, des barakas et une quantité de marfira qui descend, qui sont spécifiques à la nuit du destin. Tout ça fait que cette nuit porte le nom de nuit du destin parce que c'est une nuit d'une grande importance. Et également, yaqulun li qadri l'ibada, pour la valeur de chaque adoration qu'on va accomplir durant cette nuit. Et on connaît la surah, la ayah, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, l'intestin vaut mieux que 1000 nuits, et 1000 nuits ça fait à peu près 83 années. C'est-à-dire chaque ibadah que je vais accomplir, c'est l'équivalent de 83 années de ibadah. Donc ça c'est une première définition, Laylatul Qadr, le Qadr qui veut dire d'une grande importance. Alors moi quand j'entends ces hadiths et je comprends ces explications, ça me permet de me concentrer encore plus sur les nuits impaires cette fois-ci et réaliser que ce sont des nuits exceptionnelles. Parmi toutes ces nuits impaires, il y aura une nuit d'exception qui se passe une seule fois durant l'année et je me dois de répondre présent. Et pour répondre présent, on ne peut le faire que si Allah nous donne la possibilité, le tawfiq, le fameux tawfiq, et si Allah nous donne la possibilité donc de répondre présent. Ainsi donc, bon, il est peut-être un peu tard de dire ça maintenant, mais on retient pour les autres nuits. Les savants donnent ce conseil. Lors de la rupture du jeûne, on sait qu'on a au moins une doua qui est acceptée par Allah Azza wa Jal lors du iftar, la rupture du jeûne, incluant parmi le doua, ya Allah, donne-moi le tawfiq, la possibilité de répondre présent lors de la nuit du destin, afin que lorsqu'on se réveillera, Inch'Allah, on aura la présence de cœur. Et puis on complète avec les doigts que je puisse être concentré, je puisse faire les adorations, lire le Coran, le dhikrullah, et que tu acceptes, ya Allah, et ainsi de suite. Donc déjà, orienter son cœur vers Allah, parce que c'est uniquement Allah qui peut donner tawfiq, qui peut accepter une personne pour faire son ibadah, son adoration. Donc, cette nuit qui vaut plus que 83 années de ibadah, on comprend qu'on a besoin de notre Seigneur, de notre Rabb Azza wa Jal, pour nous accepter pour passer une partie de cette nuit ou l'intégralité en adoration. On voit la deuxième signification de Laylatul Qadr, nuit d'une grande importance. Laylatul Qadr, la grande importance, c'est le premier sens. Al-Qadr bima'na at-taqdir. Et c'est le sens le plus connu, le plus répandu, que le Qadr, c'est la racine de at-taqdir, le destin. Parce que, effectivement, durant cette nuit, Allah Rabbul Izzah révèle d'une certaine façon notre destin. Yuqaddiru fiha ma yasha'u ila sanatil qabila. Tout ce qui va nous arriver de cette année à l'année prochaine. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit que inna Allah qaddara ma yakunu fi tilka sanati. Allah prédestine ce qui va se passer durant cette nuit min matarin wa rizqin wa ihya wa imata ila mithl hadhihi al-laylati min as-sanati al-atiya. La pluie. Combien de pluies, subhanallah, il y aura combien d'averses durant cette nuit. La subsistance, les naissances, les décès, jusqu'à la prochaine nuit du destin. Donc ça c'est le tafsir de Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et Al-Qurtubi, dans son tafsir, explique que toutes les décisions concernant cette umma de cette année jusqu'à la prochaine sont révélées durant cette nuit. Alors la grande question qu'on peut se poser pour ceux qui ont quelques lectures concernant le destin peuvent se dire, mais est-ce que ça veut dire, la question voilà, elle peut être un peu déplacée, mais est-ce que ça veut dire que le destin n'est pas encore écrit pour 2022, pour 2023, pour 2024, sachant que ça fonctionne d'année en année, de Laylatul Qadr de cette année jusqu'à celle de 2022 et ainsi de suite. Là wallah, il y a différentes catégories de destin, mais ça on peut pas rentrer dans ces explications, c'est beaucoup trop précis et ça prendrait beaucoup trop de temps, mais juste pour qu'on comprenne, afin que ce soit un peu plus clair, il y a différents types de destins. Il y a le at-taqdir al-'am, le destin général. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal a déjà prédestiné 50 000 ans avant la création des cieux et de la mer, wa 'arshuhu 'ala al-ma', alors que le trône d'Allah était sur l'eau. Hadith de Muslim, ça c'est avant la création. Allah a déjà écrit le destin, c'est-à-dire tout est déjà prédestiné. Il y a le destin de chaque être humain, qu'on appelle le taqdir al-bashari. C'est lorsqu'Allah prédestine, est-ce que ces gens-là seront parmi les descendants de Adam alayhi salam, est-ce qu'ils seront mu'min ou kafir. Il y a le taqdir al-umri, le destin de chaque individu. Et ça, c'est lorsque on est dans le ventre de notre maman à 40 jours et Allah prédestine, est-ce que ce sera quelqu'un d'heureux ou de malheureux, il y aura telle chose, il y aura telle chose. Donc ça, c'est mon destin, moi, personnellement. Et bien sûr, dans mon destin personnel, il y a quand je nais, quand je meurs, mon risque, c'est-à-dire ce qui est prédestiné dans la nuit du destin, c'est quelque chose qui est déjà intégré dans mon destin à moi. Et il y a at-taqdir as-sanawi, le destin annuel. Le destin annuel, et les savants expliquent que ce qu'Allah a déjà pris comme décision de façon globale, Allah Rabbul Izzah le révèle aux anges afin que ce destin soit exécuté pour l'année qui va commencer. J'espère que c'est clair. Il y a le destin de toute la création. Il y a ton destin à toi, de toute ta vie. Mais la nuit du destin, Allah révèle aux malaïka ton destin de cette année jusqu'à l'année prochaine. Voilà le sens du tardir. Et maintenant, la question qu'on se pose, on peut se poser si on creuse, je ne voulais pas le faire, mais on est en train de le faire. Mais s'il y a un destin déjà, est-ce qu'il y a nécessité de demander à Allah de bonnes choses pour cette année? Allah protège-nous, accorde-nous, éloigne telle chose, ainsi de suite. Bien sûr que oui. Parce que vous savez que les doigts ont une relation particulière avec le destin. Après, ce sont des notions que nous ne maîtrisons pas à 100%. Vous savez que la foi sur le destin, ça fait partie des six branches de la foi. Et les six branches de la foi sont tous en rapport avec l'invisible. La seule branche de la foi qui touche un peu notre monde à nous, d'accord, c'est justement la foi sur le destin. Parce que les autres branches de la foi, la foi sur les prophètes, la révélation, ainsi de suite, On est vraiment dans le domaine de l'invisible. Certes, la foi sur le Coran est entre nos mains, bien sûr, mais la foi sur le destin, ça concerne ma vie, mais en même temps, c'est en rapport avec l'au-delà. Donc, il n'y a pas possibilité pour moi de comprendre avec précision comment ça se passe, à quelle étape. Ce que je sais, c'est qu'il y a un destin de toute ma vie. Ce que je sais, c'est que lors de la nuit du destin, le destin de l'année en cours de 1442 jusqu'à 1443 de ma vie est révélé au Malaïka et ce destin sera appliqué. Et on sait pertinemment qu'il y a des actions qui peuvent, allez, je ne voulais pas utiliser ce terme, mais je n'en vois pas d'autres pour l'instant, qui peuvent influencer le destin, qui peuvent entrer, on va dire, en relation avec le taqdir et apporter des améliorations ou nous éloigner de certaines choses. Parmi ces actions, c'est les invocations, ad-du'a. Il se peut qu'il y ait quelque chose de prédestiné et vous faites du'a. Allah vous protège contre quelque chose de mauvais. Ou Allah vous accorde quelque chose qui est encore mieux. Parmi ces actions, il y a également l'aumône. On sait que l'aumône, la sadaqa, éloigne des mauvaises choses. Et parmi les actions également, il y a le fait d'avoir de bonnes relations avec les membres de sa famille. Tout ça, c'est important. Donc, nos efforts à nous doivent être concentrés autour des invocations, entre autres durant cette nuit du destin, sachant qu'il s'agit de ce que je vais vivre de ce mois de Ramadan 1442 jusqu'au mois de Ramadan 1443. Donc les douas, ça doit faire vraiment partie des a'mal, des actions les plus importantes durant cette nuit, durant chaque nuit impair, où ça peut être la nuit du destin. Qu'est-ce qui se passe durant la nuit du destin, justement, que ce soit la 21e, 23, 25, 27 ou 29e, qu'est-ce qui se passe ? Mudha'afatul a'mal, chaque bonne action est multipliée, premièrement. Et il y a le taqdir, ça on vient de le dire, le destin. Ce qui se passe également, c'est que lors des nuits du destin, il y a une grande maghfira, un pardon divin. Et c'est le hadith qu'on a cité en introduction. Celui qui répond présent avec foi et espoir de rétribution, Allah lui accorde le pardon. La question qu'on se pose, qu'en est-il des kaba'ir dhunub ? Qu'en est-il des péchés majeurs ? Très souvent, quand on a les hadiths concernant le pardon des péchés, cela concerne les petits péchés. Vous savez que quand on fait les ablutions et qu'on enchaîne les salats, les péchés sont pardonnés. Et les savants sont unanimes pour dire qu'il s'agit des petits péchés, des péchés du quotidien. Maintenant, qu'en est-il des péchés beaucoup plus graves ? D'accord ? Les savants disent que si, dans la nuit du destin, tu arrives à réunir les conditions du tawbatun nasuha, c'est-à-dire regretter le péché, avoir des remords, demander tauba et être très sincère dans ta demande de tauba et faire l'intention ferme de ne plus jamais recommencer, ben, les conditions du tauba tu nasuha, si elles sont réunies, on a grand espoir que même les péchés majeurs sont pardonnés par Allah Azza wa Jal. Mais si ce n'est pas lors de la nuit du destin, quand est-ce qu'on veut réunir les conditions du tawbatun nasuha? C'est pas forcément quand je vais à Mecca ou alors quand je vais au Hajj lors du Wukuf Arafat, certainement. Là, on a Sharaful Makan, des lieux importants. Mais il y a également ce qu'on appelle Sharaful Zaman, des moments qui sont spécifiques et qui sont d'une grande importance. Entre autres, la dernière des cas du mois de Ramadan, c'est le moment ou jamais de demander pardon si on a commis des péchés majeurs. Même si quelqu'un, na'oudhu billah, dans sa jeunesse, hein, dans une période de jahiliya, d'ignorance, la personne avait 17 ans, 18 ans, elle ne connaissait pas les hudoud, les limites, la personne a accompli le zina, l'adultère, qu'Allah nous protège et protège nos jeunes et nos enfants, mais même pour ce péché grave, qui est d'une gravité extrême, c'est le moment ou jamais de demander tauba lors de la dernière des cas du mois de Ramadan, et on doit avoir la conviction et l'espoir qu'Allah peut nous accorder son pardon si vraiment on a été sincère. Parmi les choses qui se passent durant la dernière décade et spécifiquement dans des nuits impaires, c'est-à-dire nuit du destin, istijabatu du'a, les invocations, les du'as sont acceptées. Donc nos efforts doivent être concentrés autour de trois actions. Après, cinquième point qu'Ibn Rajab avait cité, j'ai oublié de vous le dire, nuzulul malaikati fil ardi bi kathra, les anges descendent des cieux et peuple la terre. Lors de la nuit du destin, énormément de malaïka, d'anges qui viennent sur la terre et ils ramènent des baraka, de la bénédiction. Et puis si on veut entrer dans les détails, ils viennent et témoignent des efforts de l'être humain, de chaque personne qui répond présent lors de la nuit du destin. Avant de voir les actions, l'avant-dernier point, pourquoi est-ce qu'Allah nous a accordé la nuit du destin? Ça nous permet également de comprendre cette faveur qu'Allah nous accorde. Cela résulte d'une situation où le prophète alayhi salatu wassalam avait rapporté aux sahaba ce qu'Allah avait accordé comme espérance de vie au peuple qui était venu avant nous. Et certains sahaba avaient eu vent du récit de certains parmi les Israélites, les Banu Israël, qui avaient vécu, bon le hadith je ne l'ai pas, si je l'ai retrouvé, certains passaient 80 années de leur vie en ibadah. Et certains sahaba étaient affectés, sachant que l'espérance de vie de cette umma, elle est inférieure. Et Allah Azza wa Jal a envoyé l'ange Jibril alayhi salam pour informer le prophète alayhi salatu wassalam que ton Seigneur sait que certains de tes compagnons sont attristés par rapport au fait que les gens, les populations avant vous pouvaient passer plus de temps en ibadah. Et sache, ô Muhammad, qu'Allah t'a accordé un cadeau, c'est la nuit du destin, et chaque nuit du destin est mieux que 1000 mois de ibadah. Et c'est le cadeau que le prophète alayhi salatu wassalam a eu de la part d'Allah. C'est une spécificité de cette ummah. Au même titre que le Coran et la protection du Coran est quelque chose de spécifique à cette umma, la nuit du destin, elle est propre à la umma du prophète alayhi salatu wassalam. Quand je prends conscience que c'est un cadeau qui m'a été accordé pour que je puisse obtenir quantité de hasanat et que le jour de qiyam, je puisse voir quantité de récompenses dans mon livret de compte, je me dois de répondre présent, et je comprends que c'est une manifestation de la clémence d'Allah Azza wa Jal à l'attention de cette umma. Alors les actions, et on va conclure, quelles sont les actions que je dois faire en priorité? Qiyamul Layl, le tahajjud. Vous avez tous déjà passé une heure plus ou moins à peu près en salat au tarawih. Ce qu'il faut faire, c'est la prière de la nuit, et le prophète alayhi salatu wassalam priait 12 unités de prière en moyenne. Donc on essaie de répartir idéalement notre temps de tahajjud, notre temps de ibadah, et avec ces 12 unités de prière. Ce qui est conseillé également de faire, c'est tilawatul Qur'an, la lecture du Qur'an autant que possible. Les du'as, troisième action, autant d'invocations possibles, sachant que c'est nuit du destin en rapport avec notre devenir pendant un autre taqdir, et al-istighfar bi-kathra, demander pardon, parce que c'est la nuit par excellence où on obtient le pardon d'Allah Azza wa Jal, et le faire avec sincérité. Ce que certains savants donnent comme conseil, c'est d'essayer de fusionner ces actions. C'est ce qu'on avait rappelé hier dans le programme donc d'hier, c'est d'essayer de lire le Coran au maximum dans notre tahajjud. Pour ceux qui connaissent le Coran par cœur, mashallah, les huffaz du Coran, c'est une action qui est accessible, d'accord? D'essayer de lire un quart de juz, un demi, si par, comme on dit, la moitié d'un juz dans une unité de prière, ce qui serait magnifique. Vous obtenez la récompense de la salat et de la lecture du Coran. Et la position de sujoud, de prosternation, on essaie de consacrer le maximum de ces prosternations en subhan rabbi al-a'la bien sûr, mais également en istighfar. Et du coup, on a pu fusionner la salat avec l'étude du Coran, avec les du'as et le istighfar. Bon, ça c'est un idéal. Après, chacun peut, on va dire, découper sa nuit en différentes périodes et essayer de s'organiser pour meubler, on pourrait dire, le temps qu'on peut consacrer avec le maximum de ibadah, d'actes d'adoration. Ce qu'on peut donner comme conseil, c'est les tahajjud qu'on fait durant ces nuits, on essaie, dans la mesure du possible, de lire de longs passages du Coran. On ne va pas faire des salats avec « Qulou Allah wahad »« Ida ja'a nasrullahi wal fath » même si la salat elle compte. Mais deux cas de figure, soit je mémorise le Coran, dans ce cas, on se fait plaisir, on lit autant qu'on peut. Si je ne mémorise pas le Coran, dans ce cas, je dois essayer de lire ce que je connais par cœur. Je pense que tout le monde connaît la sourate Yassine, « Tabarak alladhi biyadihi al-mulk »« Al-kahaf » la sourate Kahaf, au moyen du Kursi, les derniers versets d'Al-Baqarah, l'Illahi ma fi samawati wa ma fi l'ard. C'est-à-dire que j'essaie de voir ce que je connais, ce que j'ai déjà mémorisé comme passage du Coran, et on essaie donc de faire de longues unités de prières, hein, des qiyams qui sont longs et qui se distinguent d'autres salats. Donc ça, c'est un conseil. Deuxièmement, on essaie, dans la mesure du possible, si on connaît par cœur, le professeur Sam avait l'habitude d'aller Qiyam ul-Layl. Alors, je pense qu'on est un peu long dans le programme, mais si on termine ça, on n'a plus à revenir sur la préparation de la dernière décade. Et puis, on passe les autres soirs, on peut passer à autre chose. Donc, je tiens à compléter. Ceux qui sont fatigués, ils peuvent se déconnecter et puis écouter le programme qui sera, bien sûr, mis en ligne, Inch'Allah. Le professeur Sam, Quand il priait la nuit, il commençait toujours son qiyam ul-layl par deux raka'at khafifa, des prières très courtes. Quand il commençait le tahajjud, il commençait par des prières très courtes, c'est-à-dire des petites lectures. Donc on peut commencer par qul ya ayyuhal kafirun et qul huwallahu ahad, les deux premières raka'at de tahajjud. Et ensuite, les autres prières, les autres unités de prière étaient longues comme on a expliqué. Le professeur m'avait l'habitude également de lire de le tahajjud, le verset inna fi khalqi samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار الى اخر الايه. Si on le connaît par cœur, mashallah, on le lit. C'est celui où il y a les rabbana rabbana. Si on peut le faire, c'est une bonne chose également. Ce qu'on peut donner également comme conseil, c'est de faire de longs rukou' et de longs sujoud. C'est-à-dire, d'une façon générale, on essaie de rallonger chaque position de la prière. Alors, pour la position debout, on a bien compris. Maintenant, la génuflexion, le rukou', on connaît l'invocation Subhan Rabbi al-Azim. Donc, si au lieu de le lire trois fois, on peut le lire sept fois, neuf fois, il n'y a pas de limite, d'accord? Maintenant, si on peut changer un petit peu les différentes formules et les différentes adhkars de la génuflexion, du rukou', ce serait une bonne chose. Et là, je vous invite à consulter le petit livret qui s'appelle Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman, donc qui est traduit en français, et vous avez le chapitre les invocations de la génuflexion. Et là, on peut essayer d'apprendre par cœur, la geler sous les yeux, mais le petit souci, c'est que il n'y a pas les accents. Donc j'espère qu'on peut avoir une version avec les accents. Parmi les doigts qui sont sunna également, lors de la génuflexion, il y a Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli, et ainsi de suite. Il y a donc d'autres adhkars qu'on peut lire lors du rukou', et le fait de varier les adhkars, ça peut ramener un peu plus de concentration. Également, lorsqu'on se relève du ruku', il y a le Rabbana wa lakal hamd, mais il y a une formule plus complète qui fait partie de la sunna. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma baynahuma mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Si on peut le mémoriser, c'est pas mal. Le but, c'est d'avoir de longues positions, que chaque position soit rallongée. Dans la prosternation, nous savons que c'est la position où on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. On a notre Subhan Rabbi al-A'la qu'on connaît, mais il a également consulté Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman. On a d'autres invocations, on a également Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, on a Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Et j'insiste sur cette invocation, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik, plus ou moins c'est accessible, Subhanakallahumma, on connaît ça, Rabbana, ça va, wa bihamdik, ce sont des mots connus, Allahumma ghfirli. Parce que dans cette invocation, on a la demande de pardon. Et si on formule cette demande de pardon en prosternation, c'est vraiment très profitable. D'accord ? Maintenant, si on a du mal, au moins on retient Allahumma ghfirli. Je pense que ça, on connaît, on peut le faire. Demandez donc istighfar, pardon, dans la position de sujoud. Parce que si vous êtes en sujoud, vous lisez que Subhan Rabbi al-A'la 5, 10, 15, 20 fois, je crains qu'à un moment donné, il y a peut-être un peu de lassitude qui s'installe. Mais maintenant, variez et dites Allahumma ghfirli, demandez pardon. Et le fait de dire Allahumma ghfirli, ça réveille le cœur, ça nous permet de prendre conscience de nos péchés et qu'on est dans la position la plus proche d'Allah. On est en train d'implorer, de supplier Allah et essayer, on appelle ça at-tabaki, essayer de pleurer. S'il y a des larmes qui coulent naturellement, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, c'est un grand bienfait parce qu'on sait que parmi les sept catégorie de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyama, il y a Rajulan dhakara Allah khaliyan fa fadat 'ayna, un homme qui a pensé à Allah dans la solitude, dans l'obscurité de la nuit, seul, et les larmes coulent de ses yeux. Pleurer pour Allah par amour et par crainte d'Allah dans le dernier tiers de la nuit, dans nos prières de la nuit, c'est quelque chose d'immense et les récompenses sont énormes le jour de Qiyama. Si on n'arrive pas à pleurer, pour qu'on n'arrive pas à pleurer, il y a différentes raisons. On va pas parler de ça. Si on n'arrive pas, on essaie. J'ai presque envie de dire faire semblant. Je veux plutôt dire provoquer les larmes. Il y a des fois, on essaie, on commence, et puis ça vient. Et puis ça vient. Et espérons que ça vienne. D'accord? Ça, on ne le fait pas devant les gens. Parce que le faire devant les gens, dans la masjid, lorsque les gens te voient, ça peut être assimilé à de l'ostentation et créer souvent de mauvaises pensées. Mais lorsque vous êtes seul sur votre musalla, votre sajjada, votre tapis de prière, vous êtes seul avec votre Seigneur, c'est le moment ou jamais de pleurer, d'essayer de provoquer des pleurs. On fait autant qu'on peut. Et la meilleure position, je vous assure, faites l'expérience, je pense que tout le monde a déjà fait, vous êtes dans le sajjada. Vous avez tellement de bonnes intentions cette nuit, on est motivé, on a envie d'obtenir le pardon d'Allah. Vous êtes en sijda et vous dites Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Et vous pensez à vos erreurs quand vous étiez jeune, à vos péchés. Enfin, vous n'avez peut-être pas de péché, moi j'en ai. Et chacun pense à ses erreurs, à ses péchés, les paroles prononcées à tort et à travers, les choses qu'on a pu regarder, les choses qu'on a écoutées, les musiques de notre jeunesse, où on a écouté, vous pensez à vos péchés, vous demandez Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous et à toute la Oumma de connaître et de verser des larmes. C'est de la magie qui s'installe quand on arrive à pleurer en sijda dans le dernier tiers de la nuit, dans une nuit impair du mois de Ramadan. C'est le jackpot spirituel. Et c'est vraiment le conseil qu'on peut se donner mutuellement. Passer beaucoup de temps en sujoud. Une position également... On va être rapide, hein. Je sens que vous décrochez, je décroche moi aussi, hein. Il y a un peu de fatigue qui s'installe, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, d'accord? Et c'est pas le moment de flancher, on n'a pas commencé la nuit de prière, on est en explication. Une position qui est ignorée malheureusement par beaucoup de gens, et c'est une position où il y a un doigt à lire, c'est la position assise entre les deux sujoud, entre les deux prosternations. Malheureusement, quand nous on fait la prière, on fait la prosternation, on s'assoit, on dit Allahu Akbar, et on reprend la deuxième prosternation. Mais il y a un doigt à lire entre les deux sujouds, dans toutes les salats, même dans la salat, dans les prières obligatoires. C'est tout simplement Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Wallahu maghfirli. Et c'est une doigt importante, c'est une demande de pardon. Et dans nos qiyam ou l'ail, on peut rajouter le doigt qui est plus complet, Allahu maghfirli, warhamni, وَعَافِنِي وَرْزُقْنِي. Et là aussi, je vous invite à consulter Hifn al-Muslim, où il y a les doigts. Le titre, c'est les invocations dans la position assise entre les deux prosternations. Alors, vous trouverez ça, hein, dans le sommaire, c'est très clairement expliqué. Et si on peut prendre un peu de temps pour l'apprendre par cœur, c'est déjà une bonne chose, avec la traduction. Du coup, vous êtes entre les deux sijda. Vous avez déjà passé, mashallah, 5 minutes en prosternation, hein. Là, vous avez un peu le sang qui monte à la tête, ça tourne un petit peu, vous asseyez. Et vous demandez Allah maghfirli, oh Allah, comme ton pardon, warhamni, oh Allah, aie pitié de moi, waghfirli, Rabbi Allah maghfirli, warhamni, wa'afini. Et al-afu, ça rejoint, alors je voulais pas rentrer dans les détails, mais ça rejoint la demande de pardon, mais c'est un pardon qui est immense, qui efface toute trace du péché. Dans mon livret de compte, l'endroit où j'ai accompli le péché, de la mémoire des anges, d'une certaine façon, il n'y a rien, il n'y a plus de trace de ses péchés, d'accord? Vous demandez donc, Allah maghfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni, accorde-moi ma subsistance, c'est un doua, et ainsi de suite, et vous essayez de penser à ce que vous demandez. Je vous assure, ça s'appelle optimiser chaque position de la salah, ça fait une salah qui est vivante, où je ressens ce que je lis et ce que je demande à Allah Azza wa Jal. Donc les doigts, on les retrouve dans ces positions de la salah. Donc je récapitule, de longues rakat, de longues positions debout, de longs rukous avec Subhan Rabbil Azim, lisez-le 10 fois, 15 fois, 30 fois, et les autres doigts qu'on peut mémoriser, de longues prosternations avec la demande Allahumma ghfirli, accorde-moi ton pardon, et la position assise entre les deux sijda, où on demande également Rabbighfirli, tout simplement, si c'est ce que je peux retenir, ou les formules plus complètes. Mais essayez de faire, faites en sorte que deux rakats de tahajjud, ce soit long. Ça prenne au moins 30 minutes. Et là, 30 minutes, vous casez 12 rakats, je vous assure, vous avez une belle nuit. Il n'y a pas à s'ennuyer. Il n'y a pas à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire en attendant, si c'est trop long, j'ai terminé. Si tu as fait tes 12 rakats en une heure, c'est que c'était trop rapide, c'était trop mécanique, d'accord? On doit amener la spiritualité, et dans les adhkars que je viens de vous dire, je vous assure qu'il y a présence de cœur, et qu'il y aura inshallah présence de cœur et spiritualité. Hada. On va terminer. Alors, quand vous faites doua, petite astuce, si vous voulez que vos doua soient acceptés, bien sûr, la façon de faire doua, c'est commencer par As-salatu ala nabi, et les durud sharif, comme on dit, et invoquer Allah par ses noms. Autant on connaît les noms, si on connaît les 99 noms d'Allah, allez-y. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rabbal Alamin, et ainsi de suite. On invoque Allah par tous ses noms, et ce serait, mashallah, exceptionnel. Oui, on peut lire le Sayyid al-Istighfar. Ah, il y a des questions. Mashallah. On peut lire le Sayyid al-Istighfar en position de prosternation, sachant que c'est Salat al-Tahajjud, c'est une prière qui est nafil. Le Sayyid al-Istighfar, ça, je pense que tout le monde doit le connaître par cœur. Si on ne le sait pas, c'est le moment d'apprendre. Avant de commencer les prières, Allahumma rabbi la ilaha illa ant, c'est la meilleure formule pour demander pardon à Allah azza wa jalla. Imaginez que vous le mémorisez et que vous connaissez le sens et que vous le lisez donc en sujoud, dernier tiers de la nuit, impair Ramadan, en pensant à vos péchés, en vous rappelant des bienfaits qu'Allah vous a accordés, ainsi de suite. Et du coup, quand je me rappelle des bienfaits, c'est-à-dire j'éprouve de la honte d'avoir désobéi à Allah alors qu'il m'a comblé de bienfaits, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, si vous êtes concentré, il y a plein de choses qui vont se passer dans votre tête, dans votre cœur, et assurément, il y aura de l'émotion, il y aura de la dévotion, et il y aura des larmes qui vont couler, et ce sera donc une nuit réussie si on a pu faire tout ça. Donc, avant que j'oublie, parmi les doigts importants, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ça fait partie des doigts. Ce que je peux conseiller, c'est que vous avez fait deux rakats de tahajjud qui prend 30 minutes avec tout ce qu'on a expliqué, faites une pause de 15 minutes. Et là, vous lisez, mashallah, 10 fois, 100 fois, il n'y a pas un nombre limité, autant de fois possible, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, et bien sûr, le afu. Le afou, comme on a dit, c'est un pardon qui est, c'est vraiment le pardon, j'allais le dire, le pardon karcher. Ça détruit tout, ça enlève, ça décrase, ça décalcifie. Il n'y a plus rien qui reste, subhanallah, ni dans mon livret de compte, ni sur la terre où j'ai accompli le péché. Et ce péché ne me sera même pas rappelé, inshallah, le jour du qiyam. Peut-on lire plusieurs sourates, mais qui ne se suivent pas dans une rakat, d'accord? Oui, on peut lire plusieurs sourates dans une même rakat, dans le cas où je ne mémorise pas beaucoup. Alors, la question nous avait été posée hier également par d'autres moyens. Est-ce qu'il faut respecter l'ordre de la révélation? Idéalement, oui. Chez Abu Hanifa, il est makruh, karahiya, il est déconseillé de commencer. Je vous donne un exemple. Je commence ma salat, je commence par qul a'udhu birabbi nas, et ensuite je lis wadduha, ensuite je lis la uqsimu bihadha al-balad. Non. Il faut suivre le tartib, l'ordre des sourates, depuis le début jusqu'à la fin. Idéalement. Maintenant, si je suis coincé, je ne sais plus il y a quoi avant et tout, j'ai lu notre sourate, la salat compte. Ça n'est pas annulé. Ce n'est pas un péché, mais c'est un idéal. D'accord? Dans les autres madahib, chez Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Shafi'i, je pense que ceux qui sont en ligne avec nous, ils sont concernés peut-être par Imam Malik Shafi'i. Il n'y a pas de problème à ce que les versets, les sourates ne s'enchaînent pas, ou que ce soit pas dans l'ordre de révélation. D'accord? Donc, ordre de révélation, ordre de lecture. Il y en a qui posent des questions très précises, les deux. Ordre de révélation et ordre de lecture, les deux. Idéalement, c'est de suivre l'ordre, et si on n'a pas pu le faire, je le répète, ce n'est pas un péché, Inch'Allah. On essaie de faire des rakats les plus longues possibles. Alors, je perds le fil en lisant un peu les questions. Donc, Allahumma innaka afoun, et prendre conscience que le pardon, que cette formule, c'est ce que le Prophète a enseigné à Aïcha radiallahu anha. Et donc, c'est la meilleure formule qu'on puisse lire durant cette nuit. D'accord? Laissez tomber vos petits livrets que vous avez reçus, les vieilles photocopies dans votre placard, où mon grand-père lisait ça. Allez vers via ces formules qui sont beaucoup plus simples. Et le Prophète a dit que ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. Le Prophète a dit, Hadith Bukhari, et que le croyant choisisse le doigt qui lui est le plus proche, qui touche le plus son cœur, et il invoque Allah, il demande Allah عز وجل. نعم. هذا. Je parlais tout à l'heure de petite astuce, hein. Si vous voulez que vos doigts soient acceptés, ben faites doigts pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Ça s'appelle doigts à la vahril ghaib. Quand on fait doigts pour notre prochain, on sait qu'il y a des anges qui viennent spécifiquement. Quand ils entendent un serviteur, un croyant, faire des doigts pour une autre personne, les anges viennent et ils disent Amin, wa laka mithlu dhalik. Amin, Allah accepte et qu'Allah t'accorde l'équivalent. Donc les savants disent, si on veut voir nos doigts acceptés, par exemple, je demande doigts, Allah, garde-moi sous ta protection, protège-moi contre le Covid, protège-moi contre le variant indien, sud-africain, anglais, et ainsi de suite. Mais quand tu demandes doigts de protection pour toi, Ya Rab, protège également telle personne, Ya Allah, telle personne que j'aime, une personne pour qui j'ai beaucoup de muhabba, mes parents, bien sûr, mes parents, les membres de la famille, cite des noms, et demande doigt pour Fulan. Et telle personne et telle personne. Et tu auras, Inch'Allah, l'acceptation de cette invocation pour toi également. Hada. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Allez, je prends le temps de lire vos questions. Des sourates à comprendre avec tafsir pour débuter. Oui, les sourates qu'on avait dit qu'il serait bien d'étudier, c'est les sourates révélées à Makkah. Hein. اقرا باسم ربك الذي خلق المزمل المدثر de le début de la révélation, mais là on va vers une autre thématique. Je pense que ce soir c'est peut-être pas le moment de lire le tafsir et d'étudier, c'est vraiment le moment de ijtihad fi al-ibada, qu'Allah Rabbul Izza accepte cette assemblée et nous donne la possibilité inshallah de passer le maximum de temps voire toute la nuit en ibada. Et que ce soit cette nuit impaire ou les nuits paires, hein, elles sont toutes importantes, comme on l'a dit. Mais bien sûr, un peu plus de considération pour les nuits impaires, sachant qu'il y a plus de chances que la nuit du destin se trouve dans une des nuits impaires. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accepte, illumine vos cœurs, illumine vos maisons, protège les membres de votre famille et nous accorde la meilleure des choses qu'il accorde à ses serviteurs durant cette nuit. Mantawfiqi illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيراً.